France Musique. Les grands entretiens, Corinne Schneider.
Je m'appelle Elena Bashkirova. Je suis née à Moscou. Je suis musicienne, pianiste.
Elena Bashkirova, merci infiniment de nous recevoir ici, dans votre loge à la Philharmonie de Paris. Vous venez de donner deux concerts en ce mois d'octobre 2020. Merci du temps que vous allez passer avec les auditeurs de France Musique.
C'est un grand honneur pour moi aussi d'être invitée à votre interview.
Et vous vous exprimez en langue française. Vous avez souhaité faire ces grands entretiens en langue française, alors que votre langue maternelle est la langue russe.
Oui, elle est russe, mais quand même j'ai vécu en France 11 ans. Et c'est le point d'honneur pour moi de encore pouvoir faire l'interview de conversation en français. Ça va pas être parfait, mais j'essaie de mon mieux.
Vous êtes née à Moscou dans une famille de musiciens. Quels sont les souvenirs les plus anciens que vous pouvez nous transmettre concernant cette ville de Moscou au tout début des années 60?
Je peux pas vous dire exactement. Pour moi, c'était une ville, bon, la ville de mon naissance, il n'y a rien de spécial. C'est là maintenant que je ne le reconnais pas, c'est plutôt plus tard. D'abord, les premières années que je me rappelle, on a vécu dans un tout petit appartement avec les parents de ma mère et nous, et encore des voisins. C'était soi-disant l'appartement communal.
Oui,
alors tout le monde a vécu comme ça. D'avoir le propre appartement, c'était vraiment... un rêve. Mais ce rêve est quand même se réalisé et mes parents, ils ont reçu leur propre appartement parce que là, dans le vieux appartement, on avait une pièce et les parents de ma mère, elle avait une pièce et moi, j'ai dormi vraiment sous le piano parce que c'était la seule place où on pouvait mettre le lit. Et mon père a travaillé toujours ce piano, alors j'étais comme ça dans le bain de son de petite enfance. Après, on a finalement reçu l'appartement aussi tout petit, mais à nous. Et alors, c'était une autre vie.
Et vous étiez toute seule ou vous aviez des frères et sœurs?
Non, je n'ai pas de frères et sœurs.
Vos deux parents sont musiciens?
Oui, deux parents sont musiciens. Et maman, elle avait le travail plus ou moins structuré parce qu'elle était à l'orchestre. Alors, elle est partie chaque matin. Et souvent, elle est aussi revenue et repartie le soir parce que aussi c'était les concerts ou... quelque chose comme ça, voilà. Et mon père, il était aussi beaucoup, beaucoup absent. Il était absent pendant des mois parce que c'était juste l'époque où il faisait une grande carrière de soliste et beaucoup, beaucoup voyagé. Passé beaucoup de temps avec les grands-parents.
Et comment cela se passait avec les grands-parents, avec votre grand-mère? Vous sortiez au spectacle, vous sortiez
Oui, bien sûr, vous savez, ça c'était la vie de, comme ça, middle class, de classe moyenne. Tout le monde est sorti. Les gens sont allés au concert, au spectacle, les spectacles pour les jeunes. Ça c'était très très bien construit tout ça, la vie. Il y avait énormément de spectacles pour les jeunes. Et il y avait le théâtre pour les enfants, le théâtre pour les enfants plus grands, le théâtre de marionnettes, le théâtre pour les jeunes. Il y a énormément de choses. Et bien sûr aussi les concerts, les opéras, les ballets. Alors tout le monde est allé, tout le monde est allé. Pas seulement les enfants de musiciens, mais c'était une chose tout à fait à faire.
Et est-ce que vos grands-parents avaient une activité à ce moment-là dans votre petite enfance ? Eux aussi, professionnellement, ils étaient musiciens?
Non. Ah, bon, mon grand-père n'était pas musicien, il était physicien. Oui. Et ma grand-mère, elle était musicienne toute sa vie aussi. Elle jouait le piano aussi. Non, moi, j'étais vraiment entourée par les sons.
Est-ce que votre grand-mère a été le premier professeur de votre papa, il faut le rappeler, Dmitri Bachkirov, qui est le grand pianiste et pédagogue du conservatoire Tchaïkovski de Moscou? Est-ce que c'est sa maman qui l'avait mis au piano dans son jeune âge?
Vous savez, les grands-parents avec lesquels on habitait, c'était les parents de ma mère.
D'accord.
Pas de père. Parce que le seul qui n'a rien eu avec la musique, c'était les parents de mon père. Et ça, c'est drôle parce que lui, il est la musique. Il incorpore vraiment la musique en chaque cellule de son corps. Mais ses parents n'étaient pas du tout musicaux. Par contre, sa grand-mère, c'était vraiment très musical. Il a aussi étudié la musique à Berlin et encore avant la Révolution. Et c'était comme ça avec des très, très, très grands pédagogues. Et alors, c'était elle qui a reconnu son talent et elle a insisté qu'il étudie. Et c'est elle qui l'a vraiment pris par la main et l'a amené chez le meilleur pédagogue qui était là. Et c'est comme ça.
Bachkirova, comment basculez-vous vers le piano, je dirais de sous le piano jusqu'au clavier du piano?
Oui. Tout naturellement, on ne m'a même pas demandé. On m'a mis sur le piano, elle a dit voilà, tu sors de sur le piano et on se met au piano. C'était une chose naturelle.
Et pourquoi pas?
Moi, ça, je ne sais pas, vous savez, je ne sais pas. Peut-être parce que c'était le piano était déjà là, grand-mère était là, le père était là et. Bon, c'est comme devenu piano. Pour moi, c'était à cette époque, j'ai même pas posé les questions pourquoi je joue. Tout le monde a joué autour. Et après, très vite, on m'a mis dans une école spéciale qui existe toujours à Moscou. Ils ont même deux qui sont très très bonnes et avec un système absolument fantastique. L'école qui commence avec 6 ans et qui finit avec 18. Avec un baccalauréat, tous les sujets sont abordés, et là, tout le programme de l'école normale est fait, mais avec un accent sur la musique. Et ça veut dire qu'il faut un certain talent pour les enfants et il faut les parents très ambitionnés et avec beaucoup de patience pour faire ça. Et alors, bien sûr, il y avait beaucoup de gens en talent très, très, très doués, des enfants très doués, aussi avec les parents très ambitionnés. Et au fur et à mesure, pendant ces 11 ans, ça s'est cristallisé un peu. Où sont les enfants doués et passionnés et où sont les parents passionnés? Alors, peu à peu, ça se cristallise et au bout de ces 11 ans, c'est déjà seulement ceux qui deviennent musiciens qui restent, qui deviennent les vrais musiciens. D'abord, mes parents voulaient que j'aille chez un très grand prof qui était à ce moment-là assez jeune, qui avait des résultats magnifiques Par exemple, il avait chez lui étudié Plitnyov, Pogorelitch. Plus tard, il était dans ma classe et tout ça. Et il avait beaucoup de, déjà de pianistes dans son parcours qu'il a vraiment comme ça préparé. Mais je ne sais pas, parce que peut-être j'étais très paresseuse. J'étais très paresseuse, malheureusement. Quand je pense comme ça à cette enfance assez heureuse, et on m'a laissé être paresseuse, on ne m'a pas vraiment beaucoup...
Ah, c'est-à-dire qu'à la maison, papa n'était
non,
pas
papa était révisé
avec
là.
Vous.
Non, non, il était avec toute petite, comme ça, comme moi, non. Non, 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 mais j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais je n'étais pas quelqu'un qui est brûlé de ça. Et alors, parce que j'avais aussi beaucoup d'autres intérêts. Moi, j'ai beaucoup dessiné et j'ai aussi fait le sculpté et tout ça, ça. Alors, ça, c'était très, très, très bien. Et moi, j'étais bien avec. Et je pensais que peut-être ça sera aussi, peut-être plus tard, je vais aller là.
Musique, les grands entretiens d'Elena Bashkirova.
Quand j'avais comme ça 12 ans, 13 ans, j'étais mordue par le théâtre. Et le théâtre est devenu vraiment une passion pour les années. J'avais envie de jouer au théâtre. J'avais envie aussi de faire la régie.
La dramaturgie,
la dramaturgie
mise en scène.
Aussi, et aussi mise en scène. Plus tard, c'est devenu opéra. Et comme ça, peu à peu, tous les arts. Et l'opéra, c'est vraiment c'est resté avec moi à partir de l'âge de 11 ans. J'avais mon opéra préféré, c'était La Dame de Pique de Tchaïkovski. Et comme j'avais beaucoup de disques à la maison, j'ai écouté des heures ces disques. Je connaissais par cœur beaucoup des opéras, mais surtout cette Dame de Pique, c'était mon numéro vraiment, parce que quand il y avait les invités, on m'a dit, mais viens ici, tu vas le chanter, et j'ai chanté le premier acte de Dame de Pique avec tous les rôles, bon, c'était plutôt amusant. Après, il y avait d'autres opéras, et après, à 13 ans, j'ai vécu un choc de ma vie, parce que j'ai entendu mon premier Wagner, oui. J'avais 13 ans.
Et c'était quel opéra de Wagner ?
Tristan, bien sûr. Tristan. Et l'Union soviétique, elle était à cette époque-là, il n'y avait pas de Wagner. Ma mère a raconté qu'un tout petit peu plus tard, en Bolchoï, ils ont commencé d'étudier le Ring Rheingold. Et ils ont eu quelque chose comme 60 répétitions d'orchestre. C'était quelque chose incroyable. Incroyable.
Nous sommes là dans les années 70, n'est-ce pas?
Oui, 72 c'était. Et le 72, tout en cours, l'opéra de Vienne arrive. Et avec trois productions, je me rappelle ça comme aujourd'hui. Il y avait Tristan, il y avait Figaro et Chevalier de Rose. Donc vraiment avec cette magnifique orchestre de Vienne Philharmonica, il y avait Karl Böhm, Joseph Krips et des chanteurs vraiment magnifiques. Alors, j'avais le billet pour tout, mais Tristan, c'était impossible. Mes parents, ils ont trouvé, le père avait un billet par-ci, un billet par-là. Et pour le Tristan, ni maman, ni papa pouvaient aller. Et alors, il avait un billet, alors, bien sûr.
C'était pour vous.
C'était pour moi. C'était pour moi. Et je me rappelle que tous les deux m'ont dit, il faut absolument que tu écoutes bien l'orchestre. C'est vraiment, c'est tellement important et tout ça. Alors, je suis allée là-bas et je suis sortie une autre personne. Ça m'a complètement choquée dans le sens, j'étais vraiment comme cet éclat électrique. Alors, voilà. Depuis ce jour, j'ai commencé à écouter ce disque Wagner que j'avais à la maison. Je l'écoutais tellement qu'on ne pouvait plus l'utiliser. J'ai jeté à la poubelle. Et après, j'ai pris tout mon argent de poche. Et avec cet argent de poche, je m'ai acheté un autre coffret, exactement le même. C'était avec Furtwängler. C'était un enregistrement de magnifique, classique. Et j'ai acheté 3 fois. Mon argent de poche est allé pour ça. Parce que j'ai écouté ça tout le temps, tout le temps. Nuit, jour et tout le temps, la même chose. Et alors, ils étaient tous rayés. Il fallait les jeter à la poubelle, acheter les nouveaux. Le parcours de pianiste normal, mais je retourne maintenant chez pédagogue qui était mon professeur. Il était très très bon, mais pas pour moi, je pense, parce que après 4 ans, j'avais une nuit énorme avec lui. Il est parti après pour un an de sabbatique et je suis passée chez une autre dame qui était très très gentille et elle m'a réveillée un peu. Le désir de jouer, d'avoir le plaisir de ça. Après quelques années, j'ai commencé à faire beaucoup de progrès. Bien sûr, quand on fait les progrès, ça te donne l'envie de faire encore plus. Mm-hmm. Après, il est parti, pour l'état de santé, il est parti, et j'étais sans le pédagogue. Et voilà, à ce moment-là, mon père m'a dit, tu sais, tu es trop jeune, je ne travaille pas avec les gens jeunes, surtout pas comme avec toi, quelqu'un qui ne travaille pas assez et qui a trop d'autres intérêts. Tu fais les choses pour le théâtre, c'est très bien ça. Mais si tu veux que je travaille avec toi, il faut que tu donnes une année au moins, que tu laisses tout ça à côté et on travaille. Et après, on voit. Alors, c'était très bien de sa part. Il m'a donné le choix un tout petit peu, mais c'était très critique parce qu'il a dit, tu laisses tout ça à côté maintenant. Déjà, dans 2 mois, j'étais tellement passionnée par les études avec lui, qu'il n'y avait plus de doute que je veux faire ça dans ma vie. J'avais déjà 16 ans.
Souvent, Elena Bashkirova, votre père, Dmitri Bashkirov, comme un fanatique du piano.
Il est toujours, c'est un fanatique de
piano.
Il
a 88 ans, comment va-t-il?
Oui, bientôt 89, le 1er novembre. Il va bien parce qu'il est quand même, il est là, il est assez bonne santé et il enseigne toujours. Il habite à Madrid maintenant. Mais il est quand même là maintenant avec confinement, tout ça, c'était quand même assez triste. Il est seul là-bas. Pour lui, c'est la seule chose. Il m'a dit plusieurs fois, je peux être malade, tout peut arriver chez moi, mais rien m'arrive si je travaille, si je fais la musique. Ça, la musique me rend immunisée. Elle est extraordinaire comme ça. Elle pense, il respire la musique. Il pense que à ça. Il est un peu colérique. Quand il n'est pas content avec quelque chose, il peut devenir très émotionnel et assez sévère. Mais cette sévérité, c'est plutôt parce que ça lui fait mal si l'élève ne fait pas le maximum de ce que l'élève peut faire dans la musique. Et ça, il ne comprend pas comment on peut faire ça si on est déjà là. Et comment on peut pas ne comprendre les choses ou pas travailler, de ne pas faire son maximum. Et il demande, il est très, très, très exigeant. Très exigeant. Et avec moi, par exemple, il est souvent, il n'était pas content, il était très, vraiment. Et moi, j'étais aussi très malheureuse. Mais 5 minutes plus tard, il était déjà dans ma chambre et on est allé à la cuisine boire le thé et parler de choses complètement différentes. Alors, il avait cette qualité très rare de pouvoir absolument séparer le professionnel et le privé.
Comment avez-vous vécu avec votre famille, Elena Bachkirova, ces années d'Union soviétique qui sont les dernières années avant le démantèlement de l'Union soviétique ?
J'avais, comme je dis, une enfance assez heureuse. Et alors, il y avait des choses absolument drôles, ridicules. On avait de l'humour. Vraiment, tout le monde avait beaucoup d'humour, on a raconté des blagues politiques, c'était ok. Et quand j'ai arrivé après, par exemple dans le DDR, j'ai eu un petit voyage, encore à la fin de l'école, et j'ai aperçu que là-bas, les gens n'ont pas du tout d'humour. Chez nous, on a pris tout au deuxième degré. Vraiment, la partie communiste, c'est, disons, congrès, par exemple, on nous a amené dans les endroits pour dire bonjour au président de je sais pas quel pays africain, il fallait rester pendant des heures faire ça, c'est pour voir comme ça, le peuple,
l'accueil
du peuple, n'importe quoi. Et il y avait tellement de choses ridicules, mais de l'autre côté, bon, l'éducation était très très bonne. Il fallait simplement avoir sa propre tête. Bon, bien sûr, on était dans le milieu comme ça culturel et personne n'a vraiment cru à toutes ces choses-là, et c'était normal. Pour moi, c'était grande difficulté, était plus tard, quand j'ai parti déjà, et je suis partie, et mes parents, ils ont bien sûr payé le prix. Alors mon papa était devenu comme ça, personne non grata, et ma mère aussi, il pouvait plus voyager, on l'a vraiment comme ça, l'a fermé à clé. Il pouvait jouer les concerts à l'Union soviétique, dans les petites villes, même pas dans les grands. Elle était vraiment aussi beaucoup terrorisée à son travail. Elle a travaillé au Bolchoï, à l'orchestre. Alors, c'était, pour moi, c'était assez triste, assez comme ça, amer. Et ça, c'était vraiment très, très, très dur.
Le premier volet des grands entretiens d'Elena Bachkirova se referme avec la Barcarolle, extraite des Saisons de Tchaïkovski, un recueil que la pianiste a enregistré en 2015. Demain, elle évoquera son installation à Paris et son premier voyage en Israël. Ce sera le deuxième volet de cette série préparée par Flora Sternadel et réalisée par Christine Amado, avec François Rivalant à la prise de son et Claude Niort au mixage. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.